Radio Kapi.
Présenté par Grâce Amzati, voici le sommaire. Publication des résultats de l'examen d'État, édition 2025 dans certaines provinces éducationnelles. Des scènes de liesse, des finalistes ayant satisfait, observés ce matin dans les villes de Lubumbashi et Mbujimayi. Nous allons vous faire vivre cette ambiance sous peu. Situation sécuritaire à Ituri. Le caucus des parlementaires de cette province amorce ce mardi des réflexions sur les pistes des solutions pour une paix durable. D'autres sujets préoccupants dans la région sont également au menu de cette rencontre à suivre. Docteur Marie-Claire Manafundu, directrice du centre Maman Line au Maniema, est l'invitée de la rédaction ce midi. Sa structure ouvre une école de formation professionnelle en arts et métiers à Kindu, chef-lieu de la province. Elle nous en parle dans ses journaux. À toutes et à tous, bonjour. Des scènes de liesse observées ce mardi dans la ville de Lubumbashi après la publication des résultats de l'examen d'État session 2025. Les jeunes qui viennent de satisfaire à ces épreuves sillonnent les artères de la ville en célébrant avec joie leur réussite. Paul Mundanga nous décrit l'ambiance qui règne dans la ville dans ce reportage.
Depuis 3h du matin, plusieurs quartiers de Lubumbashi sont réveillés par un vacarme, perturbant ainsi le sommeil des paisibles citoyens. Des jeunes finalistes qui viennent de satisfaire à l'examen d'État après avoir vérifié les résultats à partir des services SMS de Vodacom ou Airtel savourent avec joie leur réussite. Des cris, des sifflets, des vuvuzelas, des klaxons des motos et autres véhicules s'enchaînent à un rythme effréné. Des groupes de jeunes avec poudre à la tête sillonnent les artères de Lubumbashi. Quelques jeunes nouveaux diplômés s'expriment.
Je viens de voir et d'apprendre que j'ai réussi et c'est depuis 1h du matin que j'ai vérifié et j'ai réussi avec 60%. Je suis vraiment contente parce que personnellement moi je ne m'attendais pas. Pour moi je pensais que ça sera même après 2 semaines, je sais pas, 3 semaines, mais à ma grande surprise la publication a été faite ce soir.
Je suis tellement content. J'ai réussi avec 53%. Je remercie mon président Fatih Beton. Et je remercie aussi mes parents qui ont payé pour moi les études.
Moi, on m'a donné les résultats vers 3h.
Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Publication également ce mardi vers 1h du matin des résultats de l'examen d'État pour la province éducationnelle Kassai Oriental 1, 5 jours seulement après la passation des épreuves ordinaires. La nuit dernière n'a pas été paisible pour les habitants de Mbujimayi. Les lauréats ont sillonné les avenues avec des vuvuzelas et des cloches pour manifester leur enthousiasme. Esther Ndalafina nous appelle de Mbujimayi.
C'est vers 1h du matin que des cris de joie ainsi que des pétards ont retenti sur la ville de Mbujimayi. Plusieurs lauréats, dont notamment Merveille Mitonga de l'Arc-en-Ciel 3 et Gendo Mbouyi de l'Institut Moulemba ISP, étaient dans les rues pour manifester leur joie.
12 ans d'études, ça n'a pas été facile. J'ai trop souffert avec l'école. J'ai fait face à ces difficultés. Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi. Concernant l'avenir, je compte aller à l'université.
J'ai réussi avec 57%. Je suis content. Je vais continuer avec l'université.
Cette publication a également réjoui les parents d'élèves, Monique Mouchia.
Mon fils a réussi avec 58%. Beaucoup de joie. Je remercie le Seigneur.
Pierre Kabianda, inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Kassai Oriental A, affirme que les taux de réussite pour son entité est de 72%.
Mes impressions sont le meilleur. Même par rapport à ce taux de réussite, je me félicite parce que nous avions fait 72%. C'est-à-dire c'est un travail qui s'est fait. Ça ne peut que nous réjouir.
Signalons que la 58e session de l'examen d'État pour la province éducationnelle Kassai Oriental 1 a été corrigée pour la première fois dans l'histoire au centre basé à Mbujimayi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la foulée, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté rejette les allégations selon lesquelles la correction des épreuves de l'examen d'État 2025 s'est faite dans la précipitation sans respecter toutes les procédures. Dans un communiqué publié sur son compte X, le ministère indique, je cite, « Contrairement aux rumeurs infondées véhiculées sur les réseaux sociaux par les détracteurs du progrès, la correction des items de l'examen d'État 2025 s'effectue avec une rigueur méthodologique et une célérité sans précédent. » Fin de citation. D'autres détails avec vous, Alain Irung Mouchinge.
Selon le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, rapidité ne rime pas avec précipitation. Grâce à l'intégration des technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle, le processus de correction gagne en efficacité, fiabilité et objectivité. Ce n'est pas la technologie qui précipite, mais bien celle qui structure, vérifie et optimise, explique le ministère. Les résultats publiés sont authentiques, vérifiés et le fruit d'un travail minutieux, loin des buzz médiatiques, mais au cœur d'une transformation silencieuse et profonde du système éducatif congolais. Le ministère a initié la décentralisation du centre de correction de l'examen d'État, rapprochant ainsi les opérations de scannage des cahiers d'items des candidats pour une évaluation plus accessible et équitable. Aujourd'hui, le scanner traite entre 80 et 160 items par minute, contre seulement 8 à 16 copies par minute les années précédentes. Une avancée technologique majeure. L'intelligence artificielle permet, selon le ministère, une optimisation du processus de correction garantissant des résultats plus précis et fiables, précise le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté.
Merci à vous, Alain Irung. Prenons la direction des Kindu dans la province du Maniema, où les écoles qui étaient en retard avec le calendrier scolaire suite au mouvement de grève ont procédé ce mardi à la proclamation des résultats de leurs élèves. À cela s'ajoute la publication des résultats de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. Plusieurs élèves qui ont réussi se réjouissent avec les membres de leur famille et quelques voisins. Un appel à la vigilance est lancé à tous les parents et même aux élèves qui prennent des motos et circulent à vive allure dans la ville à leur risque et péril. Reportage à Kindu signé Florence Kizalunga.
C'est une ambiance pas comme d'habitude qui s'observe depuis le matin de ce mardi à Kindu. Dans la plupart des familles où il y a un lauréat de l'ENAFEP, ce sont des baffles qui sont placés à l'extérieur et la musique se joue au volume maximum, accompagné de la boisson et la nourriture en abondance. Ses parents remercient les chefs de l'État pour la gratuité de l'enseignement des bases. Ingénieur Gilles Kibinga Sadiki.
D'abord, je remercie Dieu pour nous avoir accordé le souffle de vie. Mon enfant, aujourd'hui, il a obtenu son certificat de fin d'études primaires. Et je remercie aussi le chef de l'État qui nous a accordé la gratuité parce que nous n'avons rien payé comme frais.
Ce dernier donne ses conseils aux autres parents et aux élèves eux-mêmes.
Nous devons être vigilants et nous devons aussi aider les enfants qui ne puissent pas se comporter comme des vagabonds. Nous sommes en train d'observer que d'autres enfants, ils se déshabillent, ils montent sur les motos avec des vives allures. Alors c'est dangereux. Nous risquons de nous réjouir le matin et d'assister à d'autres obstacles l'après-midi.
Signalons que l'inspection principale provinciale n'a pas encore disponibilisé les taux de réussite de cet examen. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Changeons de chapitre. Nous l'avons dit dans les titres. Début ce mardi à Bunia de la réunion du caucus des parlementaires de l'Ituri, province secouée par des violences armées dans les territoires de Djougou et Irumu. Selon le président de cette structure, l'objectif principal est de réfléchir ensemble sur les voies et moyens pour une paix durable. Des problèmes socio-économiques auxquels cette province est confrontée seront aussi abordés par ses élus. N'est-ce pas, Marcel Kizabiamungu?
Des élus nationaux et provinciaux d'Irumu, Djougou, Mambasa, Mahagi et Haru prennent part à ces assises qui se tiennent dans un moment particulier de la dégradation de la situation sécuritaire. Pour respecter les caractères du régime exceptionnel de l'état de siège, aucune cérémonie officielle n'a été organisée à cet effet. Des députés et sénateurs se limitent qu'à recevoir dans un hôtel de la place, tour à tour, différentes couches de la population. Selon le président du caucus des parlementaires de l'Ituri, l'honorable Pichu Iribi, pendant 6 jours, les élus districts de la société civile, des confessions religieuses et des chefs coutumiers vont identifier les vraies causes de cette dégradation de la situation sécuritaire dans la province. Cela malgré les dialogues d'Aroudé entre les groupes armés qui avaient abouti à une cessation des hostilités. L'exploitation minière dans les zones occupées par les groupes armés à Djougou, Irumu et Mambasa, les conflits entre Sokimo et Green Tech, ainsi que la spoliation des cimetières et d'autres terrains de l'État feront également l'objet de cette rencontre. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, la situation reste tendue et volatile ce mardi dans plusieurs localités des territoires des Masisi et Rutshuru. C'est respectivement dans les groupements Mufuni, Kibabi et Kihondo qui étaient toute la journée hier lundi le théâtre d'affrontements violents entre les rebelles de l'FC M23 et des combattants Wazalendo. S'il y a un calme précaire ce mardi dans la zone, la crise humanitaire continue à s'y intensifier. Plusieurs villages sont de plus en plus vidés de leur population. Ronéline Tibonera.
Les violents combats qui ont commencé vers 5h du matin hier lundi se sont arrêtés l'après-midi dans le village des Katovu, Kaloba, Mungoti, Mwairoa et Katounda. C'est un groupement Mufuni Kibabi, secteur Katoi, territoire de Masisi. Ces combats opposaient les éléments de l'AFC M23 au Wazalendo du groupe patriote résistant congolais Pareco Force des Frappes. D'autres affrontements ont été signalés entre 10h locales et en début de la soirée, la même journée d'hier dans le village Mubirubiru, Kiyeye, ainsi que dans les jardins Teikol d'Engueri. C'est dans le groupement Kiondo, chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, sur l'axe routier Mena à Mweso. Ces derniers opposaient les mêmes rebelles AFC M23 aux combattants du collectif de mouvement pour le changement CMC des Dominiques. S'il y a un calme précaire ce mardi dans ces entités, la situation humanitaire se dégrade encore plus dans la zone. Sur le front nord, dans le Buito, des centaines d'autres familles ont fui ces combats et se retrouvent dans des écoles, églises et maisons d'accueil à Mweso et Katsiro. Par ailleurs, sur le front sud, dans le secteur des Katoye, au Sobanyungu, territoire de Masisi, ce sont plusieurs maisons des civils qui ont été incendiées et plusieurs villages vidés de leurs habitants.
Merci à vous, Ronelli Ntibonera. Notez cette triste nouvelle. La presse du Sud Kivu est une fois de plus endeuillée. Le journaliste Fiston Wilonja a été assassiné dans la nuit de lundi à ce mardi 5 août à Bukavu. Selon nos sources, son corps a été retrouvé tôt ce matin, abandonné à un endroit communément appelé Chemangaza, dans le quartier Ngouba. Ces mêmes sources indiquent qu'après avoir été enlevé par des hommes non identifiés, le corps du journaliste a été découvert ligoté et porté des traces évidentes des coups, notamment au visage. Transporté d'urgence dans une structure médicale locale, il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Sa mort est confirmée par des sources proches de l'Union nationale de la presse du Congo INPC, section du Sud Kivu. Ces drames ravivent les inquiétudes croissantes autour de la sécurité des journalistes à Bukavu, notamment dans un contexte tendu marqué par la présence des forces rebelles du M23 AFC dans la région. Nous sommes dans les territoires de Beni au Nord Kivu. La société civile du secteur de Rwenzori alerte sur l'état actuel des ponts Lume et Hululu, qui présentent les risques de céder dans les prochains jours. Selon le président de cette structure citoyenne, la circulation était coupée le week-end dernier sur l'axe Beni-Kassindi, quand toutes les planches traversales jetées sur les ponts Lume étaient détruites au passage des gros camions transportant des marchandises. La société civile appelle les autorités à s'y pencher avant que le pire n'arrive. Son président dans le secteur de Rwenzori, Ricardo Rupande, explique au téléphone de Marc Marofimbo.
C'est un pont provisoire qui est sur Lume, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des petits soucis. Nous sommes en train de dire aux autorités chaque jour qu'il faut un pont urgent parce que il peut y avoir un risque d'accident, surtout qu'il reçoit de gros véhicules. Et c'est pas possible que sur un pont aussi important qu'on y place juste un pont provisoire. C'est une désolation que nous ne soyons pas écoutés et je pense que nous serons écoutés lorsque qu'il y aura déjà un forfait sur ces ponts. C'est pourquoi je saisis encore l'occasion pour appeler les autorités à tous les niveaux de pouvoir mettre de l'accélérateur sur le pont Lume. Il n'y a pas seulement Lume, il y a aussi le pont Hululu. Donc là, il y a beaucoup de soucis. Nous ne savons pas pourquoi les autorités ne s'y mettent pas. Nous ne savons pas exactement qui va exécuter ces ponts. Est-ce que c'est le gouvernement congolais ou alors c'est l'entreprise qui est en train d'exécuter des travaux sur cette route. Donc voilà les problèmes.
Contactez le conseil du gouverneur en charge des infrastructures, reconnaît cette situation et indique que les ponts des fortunes de Hululu et Lume seront remplacés incessamment en dur. Et ici, à Kinshasa, la capitale de la RDC, une opération de sensibilisation des vendeurs est en cours à Matadi Kibala, dans la commune de Mongafula. Il s'agit principalement de ceux qui étalent leurs marchandises le long de la route nationale numéro 1. Plusieurs cas d'accidents mortels ont déjà été enregistrés en ces lieux. Le déguerpissement devrait suivre cette semaine en vue de préserver les vies humaines, nous affirme l'administrateur du marché du Campem qui a accueilli les marchands en attendant la construction d'un marché moderne. Comment se présente la situation sur place? Lucky Nzao signe ce reportage.
Kanga vendeur et vendeuse, c'est le nom de l'opération qui consiste à traquer tout vendeur sur ce site. Elle entre dans le cadre d'une initiative lancée par les autorités de la ville en vue de remettre de l'ordre sur le tronçon de la capitale et de limiter les dégâts des accidents. C'est ce que précise Danny Kouete, administrateur du marché Campem. Nous l'avons rencontré, lance-voix à la main, en pleine sensibilisation des vendeurs de Matadi Kibala.
maintenant mon tour.
Pour Maman Sylvie, vendeuse dans ces marchés, l'État doit mettre les vendeuses dans des conditions favorables.
Le marché en question est trop petit et pendant la saison de pluie, le client refuse d'y venir.
Cette cliente appuie l'idée de la délocalisation mais plaide pour un meilleur aménagement des sites choisis.
Pendant la saison pluvieuse, il y a de la boue. Corrompre l'entrée avec du sable ou de la caillasse pour nous permettre d'avoir accès au marché.
Mamungala, vendeuse au marché Kampem, évoque des questions de gains qui poussent les autres à s'exposer sur les tronçons au risque de leur vie.
Ces tas de tomates de 1000 francs ici se vend à 5000 le long de la chaussée. C'est ainsi qu'elle refuse de regagner le marché.
Le bourgmestre de Mongafula a promis pour très bientôt le lancement des travaux de construction des marchés modernes dans sa municipalité.
Actualité internationale.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déploré hier des taxes douanières américaines très punitives devant la presse à l'issue d'une réunion de son parti politique Pretoria visé par les taux des surtaxes les plus élevés d'Afrique subsaharienne. 30% fait l'objet depuis des mois d'attaques de l'administration de Donald Trump qui lui reproche des prétendues persécutions des fermiers blancs ainsi que sa plainte pour génocide visant Israël devant la Cour internationale de justice.
L'invité.
C'est Dr Marie-Claire Manafundu, directrice du centre Mama Lynn. Elle s'occupe de l'encadrement et de l'autonomisation des femmes vulnérables, notamment les filles et mères abandonnées, stigmatisées ainsi que les filles violées et les veuves. Ce centre a ouvert une école de formation professionnelle en arts et métiers à Kindu, au Maniema. Dr Marie-Claire Manafundu s'entretient ces sujets avec Florence Kizalunga.
Madame Marie-Claire Manafundo, bonjour.
Bonjour Florence.
Aujourd'hui, le centre Mama Lynn ouvre une école de formation professionnelle. Quelle est la différence entre cette école et la formation dont le centre mène tous les jours?
Il y a une nette différence, Florence, parce que le centre Mama Lynn a une branche qui s'occupe de la récupération des femmes vulnérables, parmi lesquelles les illettrés, les filles mères abandonnées, une vulnérabilité de l'ensemble. Et là, c'est une école et un centre qui fait juste la récupération et la durée de la formation, c'est tout au plus c'est une année. Pendant que cette école qui ouvre les portes aujourd'hui, une école de formation professionnelle et métier, c'est tout un cycle. Il va prendre 3 ans avec les différentes options que nous allons ouvrir. Donc, il y a assez nette différence. Ici, au centre, les apprenantes qui viennent pour être récupérées ne payent pas, tandis qu'au niveau de l'école de formation professionnelle et métier, c'est comme l'humanité, mais dans le cadre de pratiques professionnelles, là, l'école est payant et les places sont aussi très limitées, pas comme ici où nous avons un grand nombre.
L'école en question va organiser combien d'options?
Nous avons 3 options. Il y a la coupe et couture, MENA qui prend tout un cycle, coupe et couture, informatique et la maçonnerie. Alors, les éléments de différence continuent parce qu'au niveau du centre de récupération, nous n'avons que les femmes, tandis qu'au niveau de l'école, nous avons les 2 sexes confondus, donc tout le monde, tous ceux qui sont intéressés peuvent venir pour commencer cette formation qui ouvre ici en septembre.
Autrefois, vous nous avez parlé du besoin de ces projets qui nécessitaient seulement d'encadrer les femmes vulnérables. Maintenant, en ouvrant cette école, quels sont les besoins que vous avez ressentis au sein de la communauté?
Les besoins ressentis au sein de la communauté, c'est les besoins d'amélioration, performance au niveau de la coupe et couture, parce qu'on forme juste pour une année et les femmes sont parties. Mais d'autres aspects tels que les aspects spécifiques, broderie, tout ça, c'est avec la branche que nous ouvrons et ça va aller pour 3 ans. La maçonnerie, nous savons qu'ici, nous avons certes, il y a les écoles qui forment les ingénieurs en IBTP, mais on a un besoin créé aussi des maçons vraiment formés avec l'aspect dedans, là, la plomberie. Donc, les besoins se font sentir. Et aussi, l'informatique, parce que le monde est informatisé maintenant et dans chaque bureau, il y a besoin des gens qui maîtrisent l'informatique. Alors, le centre ouvre ça. Et aussi, il faut dire que parmi les besoins, comme je vous avais dit l'autre fois, l'année passée, que c'est un besoin du milieu, il y a les hommes qui viennent, qui ne cessent de nous poser des questions, mais pourquoi voulez-vous seulement former les femmes? Alors, compte tenu de ces besoins pressants au sein de la communauté, nous avons dit, on est tourné vers nos partenaires pour disponibiliser un bâtiment qui peut nous permettre de prendre tout le monde, les les hommes y compris. Donc, c'est sur demande de la communauté aussi.
Vous ouvrez vos portes cette année. Est-ce que vous avez réussi l'autorisation et l'arrêté du gouvernement congolais pour vous permettre de fonctionner ainsi?
Ce courage d'ouvrir cette école, c'est suite à cet arrêté qui a été octroyé au centre Mamaline, compte tenu de l'impact de l'État congolais, vu que c'est vraiment, ça valait la peine qu'en dehors du centre de récupération, qui est toute une école. Alors, nous avons eu l'arrêté du gouvernement de la République qui nous permet de fonctionner en tant qu'une école de formation professionnelle et métier. Donc, nous avons les documents avec nous. On a l'autorisation pour ce fonctionnement.
Alors, c'est quoi les critères pour que quelqu'un, un élève, soit accepté dans votre école professionnelle de métier?
Oui, les critères sont les suivants. Il faut ne pas avoir un niveau inférieur à 3e des humanités. Donc, à partir des 3e des humanités, vers là, nous les accueillons au niveau de l'école professionnelle et aussi être capable d'aussi payer. Mais ce n'est pas, c'est comme on paye partout dans toutes les humanités ici, mais c'est un paiement qui sera vraiment modéré pour aider à soutenir les enseignants qui vont commencer à enseigner tout ça. Donc la différence ici, au centre de récupération, pour une année, les femmes vulnérables ne payent pas, mais au niveau de l'école, les élèves doivent payer.
Et comme on va payer, qu'est-ce que vous allez dire aux parents?
Nous voulons inviter les parents de songer à l'avenir de leurs enfants et de leur donner les métiers. Une vie avec le métier, c'est quelqu'un qui ne peut pas souffrir toute la vie si la personne met son intelligence et sa volonté là-bas. Nous invitons tous les parents à nous envoyer les enfants à partir des 3e des humanités vers là pour venir s'inscrire et les premiers venus seront les bienvenus.
Madame Marie-Claire Manafundo, merci.
Merci beaucoup, Madame Florence.
Notre invité était avec Florence Kizalunga depuis la ville de Kindu, province du Maniema. Par ici, nous mettons un terme à ce journal mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, coordonné par Alain Rung et supervisé par Thérèse Kankou. Grâce à Mzati Masanzi, je vous l'ai présenté. Merci.
Bonjour chers amis sportifs, bienvenue à ce journal des sports sur Radio Okapi à la